2 milliards de téléspectateurs avaient regardé le mariage de Kate et William. Combien seront-ils aujourd'hui dans le monde à suivre le mariage du petit frère, Harry, avec l'américaine Meghan Markle? Cette union est-elle le symbole d'une famille royale britannique recomposée et enfin apaisée? Eh bien, on va en parler jusqu'à 9h avec nos deux invités. Isabelle Rivère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Point de vue, auteur de Elisabeth II dans l'intimité du règne et aussi Charles et Camilla, une histoire anglaise, deux livres parus chez Fayard. Et à vos côtés, bonjour Alex Taylor.
Bonjour Eric Delvaux.
Faut-il rappeler que vous êtes journaliste anglais et spécialiste...
Européen, notamment... c'est le mot européen.
Eh bien, j'allais dire spécialiste des questions européennes et journaliste... Merci. Européen. Ce mariage, il pourrait nous faire croire qu'une partie de la planète se passionne pour le sort de la famille royale britannique, mais est-ce réellement le cas? Je vais d'abord poser la question à vous, Isabelle Rivère.
Je pense que les opinions publiques du monde entier aujourd'hui vont se passionner pour une histoire d'amour, pour une robe de mariée aussi, qui est un peu le secret le mieux gardé de la journée. On peut effectivement, on attend, et c'est une surprise pour nous tous. Enfin, les chiffres avancés de 3 milliards de téléspectateurs sur les 5 continents, c'est vrai que
c'est plus que la dernière fois.
Ça
avec
fait encore
le frère.
500 millions de plus que pour le mariage du duc et de la duchesse de Cambridge, William et Kate, il y a 7 ans. Non, il y a quand même un vrai phénomène. Il y a aussi un petit phénomène qui est en train de se créer autour de cette jeune femme qui fait son entrée dans la famille royale aujourd'hui et qui a un profil un peu particulier, hein, en tout cas un peu différent des jeunes femmes qui l'ont précédée.
Juste sur l'engouement encore, Alex Taylor, est-ce que cet engouement, il est réel ou gonflé?
Je pense qu'il est beaucoup gonflé, enfin je ne veux pas apporter le bémol, parce que tout ça c'est très sympathique, c'est une histoire d'amour incontestable. Mais je pense que c'est gonflé beaucoup en France, les Français. Je veux dire, moi j'ai reçu 200 coups de fil cette semaine pour venir parler du mariage royal. Il y a eu quand même un sondage qui est sorti en Grande-Bretagne il y a 3 jours, et qui indique que 66% de mes ex, parce que je suis français maintenant, mes ex-compatriotes, ne s'intéressent pas du tout à ce mariage. C'est très sympathique, évidemment. Ça fait beaucoup d'audimates parce que il y a paillettes et tout ça, mais c'est quand même un miroir déformant à travers, surtout les Français. Moi, souvenez-vous, Eric Delvaux, nous avons fait la revue de presse européenne ensemble pendant de longues années, avec Patricia aussi. J'ai regardé la presse européenne ce matin. Eh bien, en France, ça fait la une partout, comme si tout le monde était complètement captivé par cet événement. Regardez la presse allemande, regardez la presse espagnole, la presse italienne, il n'y a pratiquement rien du tout là-dessus. Donc, en fait, je suis ex-britannique, maintenant français, surtout européen, je suis fasciné par la façon dont les Français, les Britanniques se regardent avec un miroir complètement déformant, qui suranné, qui regarde vers une image nostalgique de peut-être nos deux pouvoirs d'antan.
Il faut dire aussi que depuis la tragédie Diana, la famille britannique, royale britannique, a revu sa communication. Est-ce qu'on est là en train de nous raconter une belle histoire pour passer à une nouvelle séquence depuis le Brexit qui a un peu entaché l'image de la Grande-Bretagne en général?
Alors, en ce qui concerne Diana, l'héritage Diana, l'ombre de Diana, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans ce type d'occasion. Il y a quand même eu beaucoup de choses de faites, et notamment par les princes William et Harry ces dernières années, pour réconcilier le passé et le présent. Donc il y aura aujourd'hui encore un hommage discret rendu à la première épouse du prince Charles au cours de la cérémonie, puisque c'est l'une de ses sœurs, Lady Jane Fellowes, qui va prononcer l'une des lectures.
Ma question était surtout sur le storytelling qu'on est en train de nous raconter avec ce mariage aussi. On veut passer d'une séquence à une autre?
On est surtout passé d'un palais qui a été très longtemps sur la défensive à un palais qui joue depuis plusieurs années la carte de l'ouverture. Bon, c'est l'une des premières choses qu'on m'avait dites quand j'ai commencé à suivre la reine Elisabeth pour les besoins de ce livre qui est sorti chez Fayard. On m'avait dit, avant on ne disait rien, maintenant on ouvre les portes, les fenêtres, et surtout on ne raconte plus, on ne ment plus, on ne cache plus rien. Donc, et ça a beaucoup joué dans l'amélioration des relations entre la presse et la couronne ces derniers temps.
Alex Taylor, il faut dire aussi qu'en Angleterre, il y a quand même des républicains qui contestent cette monarchie, le faste de la monarchie, le coût de cette famille royale. C'est vrai qu'elle prend beaucoup de place et beaucoup d'argent.
beaucoup d'argent, mais je crois que c'est les contribuables qui payent pour le mariage, pour cette vaste opération de sécurité. Je crois que ça coûte 40 millions de livres. Enfin, personne ne sait.
Il y a beaucoup de chiffres annoncés, parce que c'est pas, en fait.
Non, mais justement, parce que c'est tenu secret. Ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, la reine, parce qu'elle est là depuis d'innombrables années, encore plus longtemps que moi, j'existe. La reine est là. Donc, et puis, parce qu'elle fait très bien son travail, je veux dire, elle porte de jolis chapeaux, et puis elle ne fait pas parler d'elle, etc. C'est une valeur émotive très forte pour un pays. Mais quand vous voyez que, par exemple, seulement 35% des Britanniques veulent que Charles accède au trône, j'ai bien peur que quand la reine ne sera plus là, que cette institution qui est quand même assez contestée encore, je vous rappelle, 66% des Britanniques, 66% des Britanniques...
Ça, c'était le sondage commandé par Republic.
Oui, mais fait par...
Oui, mais
attendez, fait par qui? Fait par pas... l'équivalent de Sovres, YouGov, qui est l'institution la plus sérieuse.
Il y a eu d'autres sondages qui ne disaient pas la même chose. Donc là, on est vraiment dans un truc un peu polémique.
En même temps, YouGov a trouvé que 66% de mes ex-compatriotes ne s'intéressent pas beaucoup à ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je regardais Sky News avant de venir, et tout le monde rentre dans une espèce de discours convenu. La journaliste était excitée comme tout, en disant, il y a la foule ici, il y a l'excitation. Quand on regardait derrière elle, il n'y avait pas énormément de monde. Donc, c'est une espèce de discours qu'on impose à tout le monde. La reine est géniale, je suis d'accord avec vous, mais cette institution n'est pas aussi soutenue par les Britanniques que ce qu'on veut bien penser en France.
Allez, Patricia Martin.
Meghan Markle, elle est afro-américaine. Est-ce que les Antillais, les Indiens, les Pakistanais qui vivent en Angleterre, du coup, est-ce que ça joue pour eux?
Ça joue pas. Par exemple, un autre exemple, il y a deux semaines, il y avait le plus grand scandale en Grande-Bretagne depuis des décennies, le scandale des Windrush. Tous ces Antillais qu'on expulse, qui sont là depuis 60-70 ans et qu'on a expulsés parce qu'ils n'ont pas de papier. Mmh. Et ça, on n'en a pas parlé en France parce que tout le monde m'a appelé à nouveau parce qu'il y avait le Royal Bébé de Kate dans l'air. Donc, je ne sais pas si vraiment après le Windrush, qui est quelque chose qui a fait la une en Grande-Bretagne, beaucoup plus que le Royal Bébé, si votre question, si les Antillais, les Pakistanais se retrouvent dans ce symbole de la monarchie.
Merci beaucoup Alex Taylor. Je crois que vous êtes attendu ce matin sur d'autres médias.
Ils sont très courageux parce que je vais dire la même chose. J'adore la reine, c'est pas pour dire ça, mais je crois qu'on en fait tout un tas pour un truc qui n'intéresse pas forcément beaucoup les Britanniques, pas autant qu'on le dit.
Eh bien, on va en débattre sur France Inter jusqu'à 9h avec vous, Isabelle Rivère. Vous restez avec nous. On va reprendre cette interview dans quelques minutes après la revue de presse d'Edouard Marguier. Il y aura aussi les questions de Patricia Martin. Vos questions, les auditeurs. Vous nous appelez sur le standard de France Inter, le mariage princier et la famille royale. Vous nous appelez au 01 45 24 7000. À tout de suite.
Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux. France Inter.
Vos questions ce matin à Isabelle Rivère. Vous êtes journaliste à Point de vue, auteur de Élisabeth II dans l'intimité du règne et aussi Charles et Camilla, une histoire anglaise. Les deux livres sont parus chez Fayard. Question ce matin sur le mariage princier aujourd'hui et la famille britannique en général, avec une première question au standard. Question de Christian. Bonjour Christian.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je précise que j'adore le Royaume-Uni. Ceci étant dit, est-ce que France Inter ne pourrait-elle pas parler du mariage princier britannique? France Inter n'est pas, enfin que je sache, Paris Match. Et personnellement, moi je m'efforce d'être tolérant et je conçois parfaitement que nombre de personnes, faute de pouvoir vivre pleinement leur propre vie, la vivent en partie par procuration au travers de celle d'autrui. Mmh. Mais il existe nombre de radios qui n'ont pas la tenue de France Inter, qui vont couvrir plus qu'abondamment cet événement ou ce non-événement.
Alors, pour ce qui concerne la rédaction de France Inter, Christian, je vais me permettre de répondre et je ne vais pas y passer trop de temps non plus. Simplement pour vous dire que ce mariage princier raconte aussi quelque chose de politique et pas uniquement cette histoire que vous qualifiez de Paris Match, entre guillemets. C'est aussi une histoire politique, des séquences qui se tournent, que ça va de Diana au Brexit et que donc France Inter estime que ça vaut la peine ce matin d'entendre vos points de vue et d'inviter quelques spécialistes pour y répondre. Isabelle Rivère d'ailleurs, pour répondre à ce point de vue, la famille royale sait qu'elle a besoin de se montrer plus proche du peuple. En quoi ce mariage peut-il contribuer ?
La reine Elisabeth, elle répète souvent que pour être, elle dit cette phrase, pour être comprise, je dois être vue. C'est une femme qui a parfaitement compris que la monarchie est aussi un théâtre, une forme de représentation permanente. le mariage d'aujourd'hui est à la fois la consécration, enfin l'aboutissement d'une histoire d'amour. Il est aussi, un très grand spectacle. La Maison Royale en Grande-Bretagne est aujourd'hui l'une des plus grandes, l'une des meilleures organismes de spectacle au monde. Mais c'est aussi
un peu de la télé-réalité parfois. Hein.
Ça n'est pas de la télé-réalité. Il y a un côté. La royauté est l'une des dernières, peut-être pas usine à rêve, mais en tout cas fabrique à rêve de notre époque. Et ça, c'est une chose à laquelle je pense que les opinions publiques du monde entier sont très sensibles. Pour illustrer, là-bas, tout le monde le comprend.
Pour illustrer ce que vous dites, il faut préciser qu'en Grande-Bretagne, chaque épisode que vit la famille royale britannique génère un business avec des photos sur les assiettes, sur les mugs.
Absolument. Il y a deux choses. Il y a la partie business que vous évoquez. Le mariage de Harry et Meghan pourrait rapporter à la Grande-Bretagne sur le plan économique plusieurs centaines de millions d'euros. Certains avancent le chiffre de 500 millions de livres sterling. Oui. Puis il y a aussi le phénomène, il y a la communion populaire. Quand on regarde l'histoire de la monarchie, qui est quand même indissociable de celle du Royaume-Uni, qu'on le veuille ou non, chacun des événements qui jalonnent la vie privée personnelle des membres de la famille régnante sont toujours l'occasion, en Grande-Bretagne, de manifestations de liesse populaire dont on ne peut pas sous-estimer l'importance. On l'a vu pour Charles et Diana, on l'a vu pour William et Kate, on le voit encore cette année, même si Windsor est une petite ville qui ne peut pas se permettre de démonstrations de foule aussi importantes qu'à Londres.
Alors ça ressemble à un annus magnificus, hein, ce que vous êtes en train de nous raconter. Qu'est-ce que vous pensez? Je viens, c'est difficile de le dire, mais qu'est-ce qu'elle pense au fond d'elle-même, Elisabeth, de Meghan Markle et de ses petites belles-filles en général? La reine, elle les trouve sympas, qu'elle lui plaît.
Oui, mais la reine, contrairement à ce qu'on croit, ce qui a longtemps beaucoup été dit, la reine se mêle très peu de la vie privée de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle pense que chacun doit faire et vivre ses propres expériences. Et quand on se trompe, on se relève. Quand on tombe, on se relève. Ça a été le cas du prince Charles, dont le mariage avec Diana n'a pas fonctionné et qui s'est ensuite remarié avec son grand amour de jeunesse, Camilla. La reine, on sait qu'elle a rencontré Meghan Markle à plusieurs reprises. Elle a aussi vu sa mère avec qui elle a pris le thé hier. C'est quelqu'un de très ouvert, de beaucoup plus simple dans ses rapports humains au quotidien qu'on peut l'imaginer. Ce qui se dit, en tout cas, dans l'entourage de la reine, c'est que les deux femmes se sont bien entendues et que la reine est surtout très heureuse pour son petit-fils qui a enfin trouver l'âme sœur et ce bonheur auquel lui il aspirait.
Et on dit aussi que Harry est le petit-fils préféré de la reine.
Alors, je ne sais pas si elle a des petits-fils préférés. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très très proche de ses petits-enfants, peut-être plus proche qu'elle ne l'a été de ses propres enfants. Elle a fait ce truc inouï, en fait, hein, pour elle, quand on la connaît, qui s'est fabriquée cette façade un peu austère depuis le début de son règne. C'est ce clip qu'elle a tourné avec Harry pour faire la promotion des Invictus Games, qui sont des Olympiades réservées aux vétérans.
Des Jeux Olympiques pour les militaires handicapés.
Voilà. Et elle a accepté de figurer dans un clip un peu humoristique où elle est assise sur un canapé avec Harry. C'était assez rigolo.
Elle a monté aussi des images avec Obama, me semble-t-il, avec Harry.
Oui, il faisait partie du même,
la même
vidéo.
Clip. On va retourner au standard avec une question de Gilles. Gilles, vous êtes à l'antenne, bonjour.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Donc moi, j'aimerais savoir comment est perçu dans l'opinion publique anglaise et française le fait qu'un prince se marie avec une femme divorcée.
La famille royale a maintenant derrière elle une longue histoire de divorce. Donc le divorce n'est plus du tout un tabou au sein de la famille régnante. C'est vrai, et vous avez, je pense que c'est sous-entendu dans votre question, c'est vrai que pendant très longtemps, les divorcés n'étaient même pas admis en présence du souverain régnant, même dans la loge royale à Ascot, sur l'hippodrome, ils n'étaient pas autorisés à entrer. Bon, ça c'est de l'histoire ancienne. La monarchie a aussi su, au fil des années, et c'est l'une des choses que l'on doit à Elisabeth II, accompagner l'évolution de la société. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle était ravie du divorce de ses enfants. Au contraire, ce sont des événements qui l'ont beaucoup marqué et qu'elle n'a pas forcément compris, puisque c'est une femme qui croit dans les vertus du mariage, etc. C'est aussi une autre génération, une autre éducation, mais elle a su l'accepter. Et aujourd'hui, le fait que Meghan Markle soit divorcée n'entre pas du tout, n'est pas du tout un obstacle à son entrée dans la famille, pas du tout.
Meghan Markle est divorcée, elle est métisse, sa mère est afro, elle est noire. Et compte tenu du Commonwealth, est-ce que ça a son importance?
Mais ça a une importance même qui est considérable. Le prince Harry a été nommé par sa grand-mère. il y a quelques semaines, ambassadeur de la couronne auprès de la jeunesse du Commonwealth. Donc, ce qui est à peu près sûr, c'est que ce jeune couple, après son mariage, va être amené à beaucoup voyager. Le Commonwealth, c'est cette organisation internationale de 53 pays qui a été fondée sur ce qui restait à l'époque de l'Empire britannique. Ce sont aussi 16 royaumes, 16 pays dont la reine est à la fois la souveraine et le chef de l'État. On a tendance à l'oublier, mais Elisabeth II est aussi reine du Canada, reine d'Australie, reine de Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore de la Jamaïque. Et donc Harry et Meghan vont certainement être amenés à devenir les ambassadeurs, plus ou moins officiels, de la couronne britannique auprès de tous ces pays.
Vous parliez d'Elisabeth II, elle a 92 ans, dont 66 ans de règne. Il y aura son sacre dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'elle ne renoncera jamais ?
Non, ça, alors il n'y a pas grand-chose dont on est sûr, mais ça on en est sûr. La reine n'abdiquera pas. Le jour de ses 21 ans, elle a prononcé ce fameux discours en Afrique du Sud, à Cape Town. Il y a eu ce fameux discours, ce fameux sermon du Cap, dans lequel elle disait, donc jour de sa majorité, que ma vie soit longue ou que ma vie soit courte, je vous fais le serment ici de l'avouer à votre service. C'est aussi une femme qui a des convictions religieuses profondes. Le roi, le souverain régnant en Grande-Bretagne, est le dernier souverain d'Europe à être sacré, c'est-à-dire à être fait Dieu, à être fait roi, pardon.
Et ce n'est pas une monarchie de droit divin, pourtant.
Non, ça n'est pas une monarchie de droit divin, mais donc c'est le dernier souverain régnant en Europe à être fait roi devant Dieu, par Dieu. En la cathédrale de Westminster, il est consacré par l'archevêque de Canterbury, etc. Donc il y a une dimension divine, hein, qu'on
tout
ne peut
même,
pas.
Bon.
Oui, voilà, qu'on ne peut pas.
Est-ce que Charles sera le futur Charles III ou est-ce qu'il peut passer son tour ?
Alors, Charles ne passera pas son tour, sauf s'il disparaît avant sa mère.
Lui préférait qu'on l'appelle George VII, hein, d'ailleurs, plutôt que Charles III.
Alors, ça, il a toujours entretenu un flou.
Quand il sera en fonction.
Oui, il a toujours entretenu une espèce de flou sur la question. Il pourrait devenir Charles III, mais c'est vrai que Charles n'est pas un prénom qui a porté chance aux souverains britanniques jusqu'ici. Il pourrait effectivement aussi régner sous le nom de George VII, en hommage à George VI, le père d'Elisabeth II, un grand-père qu'il a beaucoup aimé enfant, mais qui finalement il a très peu connu puisqu'il est mort très tôt.
On va retourner au Standard de France Inter avec une question de Jacques. Bonjour Jacques.
Hello, how do you do?
Fine, thank you. Quelle est votre question?
Alors d'abord, justement, une petite réflexion. Il y a eu quand même un divorce au plus haut niveau de l'État anglais, si je puis dire. Un divorce célèbre. Enfin, je veux dire, est même tragique, puisqu'il y a quelqu'un qui a renoncé au trône pour épouser une divorcée.
Ah, vous parlez donc, de Wallis et... Vous
parlez du duc et de la duchesse de Windsor, Wallis, voilà. Édouard
VIII,
donc, oui.
Là, ce que je veux dire, on n'en est plus dans le tragique, mais... Bon, alors, voilà ma question. Je vais essayer de la synthétiser. Je me demande si la fascination qu'éprouve la France, puisque la robe monte là-dessus, n'est pas due à ce que j'appellerais un sentiment contradictoire. À savoir que... on a coupé la tête au roi, c'est parfait, on le sait, mais nous sommes dans un système présidentiel, non pas monarchique, mais monarchiste. Je parle de Gaulle, je parle de Mitterrand, je parle aussi de Macron. Et deuxièmement, en continuant ceci, l'Angleterre est une ennemie jurée. Plus pacifiquement les matchs de football et de rugby, moins pacifiquement à Azincourt, Waterloo, et on appelle l'Angleterre la perfide Albion. Alors donc justement, dû avec ce que j'appellerais dans notre ADN bis, ce monarchisme, on le reporte sur un vice secret, sur ceux qui sont nos ennemis jurés, en les adorant cette fois-ci.
Merci Jacques.
Les Anglais, voilà.
Merci
voilà.
Jacques, on a bien compris votre question. On va entendre la réponse de notre invité. On a toujours notre cœur qui bat en France pour les rois et donc on fait un transfert vers les Britanniques.
On a sûrement en France un cœur qui bat toujours pour des rois. C'est vrai qu'on a la France a guillotiné Louis XVI et son épouse pendant la Révolution. Louis XVI, il y a eu d'autres rois. Il y a eu Louis XVIII, il y a eu Charles-Philippe. Cette fascination pour la monarchie britannique, bon, d'abord, il y a une raison historique aussi. Les rois d'Angleterre ont été aussi des rois de France pendant longtemps. Oui. C'est-à-dire, ils s'autoproclamaient, enfin, en tout cas, ils étaient aussi rois de France. Et puis, il y a aussi, on parle toujours de cette fascination que la France a pour la monarchie britannique, mais il y a aussi, et notamment chez les membres de la famille régnante, un amour pour la France. J'ai parlé une fois avec la reine Elisabeth, et justement, de cette affection qu'elle a pour la France et les Français. C'est une femme qui a appris le français quand elle était enfant, elle a commencé à l'apprendre, elle avait 5 ou 6 ans. Les quelques rares voyages privés qu'elle a effectués, les quelques vacances qu'elle a prises, c'est en France qu'elle les a prises. Donc, cette fascination, cet intérêt, il est des deux côtés.
Merci beaucoup Isabelle Rivère de vos commentaires. Je rappelle le titre de votre dernier livre, ça s'appelle Charles et Camilla. Camilla, une histoire anglaise. Le livre est paru l'année dernière chez Fayard. Merci beaucoup et bonne journée.